dans le forum avec Tony Marinaro, on se branche à Habs Radio. Let's
go, Habs!
On est en onde, là? Ah ouais, il y a tout un débat ici durant la pause, là, parce que j'ai dit à Georges, parce que quand j'ai commencé l'émission, puis là, bonjour, bienvenue dans le forum Marinaro à BPM Sport, quand j'ai commencé l'émission, j'ai dit que moi, mes amis, on pensait que le Canadien était moitié mort, là, après le match vendredi soir, puis on se dit, c'est fini, là, c'est fait, là, ils ont plus de gaz, ils ont frappé le mur, ils vont pas gagner en Floride. Et là, j'ai dit, j'ai même pas gagé un sou qui gagne en Floride. Puis Alex a dit, non, j'étais confiant.
J'ai pas dit que j'étais confiant.
Non, mais t'as dit que c'était pas fini.
C'est pas impossible, c'est pas fini.
Ouais. Mais moi, j'avais dit. Puis là, quand Georges est rentré, j'ai dit, Georges, dis-moi quelque chose. Est-ce que tu aurais gagé un sou sur le Canadien hier? Il dit, non. Est-ce que, après avoir vu le Canadien vendredi soir en Caroline, tu pensais qu'ils avaient plus de gaz puis ils ont frappé le mur? Georges, j'ai dit, oui. Et Alex a dit, non, moi, je pensais pas ça. Puis Georges, il a dit que lui et tous ses amis pensaient la même chose que moi, mes amis. Pensait. Éric Bélanger de la poche bleu, blanc, rouge, comment vas-tu?
Éric, t'es sur mute.
Éric, ça va?
Eh oui, ça va bien, vous autres.
Good. Yes. Donc, puis en parlant de ça va bien, là, j'ai dit parce que pensais que ça allait mal là, pour le Canadien, là, ça allait mal. En voyant que ça va bien aujourd'hui, le Canadien sont dans un poste de wild card, je vais faire mon Anthony Desaulniers qui, il y a une semaine ou deux, il a chanté le but de Loka Lokas on onde. Moi, je vais faire la même chose avec « Ça va bien ». Je pense que c'est la chanson appropriée pour aujourd'hui de toutes les chansons. Je pense que « Ça va bien », c'est la meilleure.
Hey, les pauvres auditeurs.
Hey, hey.
Eh oui, puis en plus, là, c'est du « Frozen Rain » dehors. C'est démoralisant. Au moins, le Canadien met un sourire dans notre face. Puis Tony, à 11h30, on va tout être rivé à la radio et sur YouTube pour t'écouter.
Ouais, merci beaucoup. Puis écoute, ça a été un de mes chansons favoris dans ma jeunesse. J'ai aimé tellement que je l'ai dans mon playlist. Par contre, moi, contrairement à Anthony Desaulniers, j'ai pas pratiqué, là. Je l'ai pas pratiqué. Je pense que je vais... je sais pas.
Ça va être atroce.
Je vais mélanger des mots, je sais, puis... on va voir qu'est-ce que ça va donner, OK?
Tu vas massacrer la chanson.
Oui, je sais, mais je massacre la langue française puis on m'a donné un job à temps plein. C'est quoi la différence?
Tournez-moi, c'est juste le fait que tu le fasses pour mettre un sourire dans le visage des gens. c'est ça qu'il faut.
Éric, est-ce que... Je vais te poser la question. Vendredi soir, quand t'étais là à la poche bleu-blanc-rouge, là, t'as vu le Canadien perdre contre les Hurricanes de la Caroline 4-1. Martin Saint-Louis dit qu'il y a des choses qu'il a aimé ce match-là. Mais ils avaient 15 lancés au but. Tu t'es dit quoi, là, toi et les gars? Là? Tu t'es dit quoi?
Ben, je me suis dit, le Canadien, avant le match de dimanche, avait donné 25 buts en 5 matchs. Et la défensive en arrachait depuis ces 5 matchs-là. On est revenu à donner beaucoup trop de chances dans l'enclave. Puis même le premier but hier, le but de Reinhardt, ça a encore été une erreur où qu'on avait deux défenseurs derrière le filet. On a laissé Reinhardt seul dans l'enclave. Fait que là, je me disais, est-ce que c'est la même... C'est le même copier-coller des 5 derniers matchs qu'on a accordé 25 buts. Mais après, là, j'ai trouvé que le Canadien a resserré la défensive, ont été opportunistes et ont joué un match de série. J'ai adoré la réponse du Canadien. Puis comme tu dis, Tony, moi aussi, j'étais un de ceux qui ne croyaient pas que le Canadien était capable d'aller remporter la victoire en Floride hier. Et encore une fois, ils nous ont fait mentir. Puis c'était une grosse victoire d'équipe. Mais... La chose qui est le dénominateur commun quand le Canadien remporte des gros matchs, c'est quoi? Hudson, Suzuki, le premier trio qui font la différence.
En parlant de Lane Hudson...
Je pense que pour tous nous autres, Lane, il était nouveau pour nous autres cette année. T'sais. Mais tu le regardes toute l'année, pas juste dans les games, dans les pratiques. T'sais. Je pense qu'il il surprend personne sur notre banc, là, dans notre organisation. C'est un gars très combatif. C'est un gars qui équipe en premier. Il donne tout et il donne du bon hockey.
Yeah, I mean it's definitely impressive for a guy going through his first season, and he always puts himself in good positions to make plays. And he's a great player, so we're happy to have him. And
est-ce qu'on peut dire, là, en tout respect pour tous les joueurs avec le Canadien, est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui, là? Hein? Lundi, le 31 mars 2025, haut et fort, là, que les deux meilleurs joueurs des Canadiens de Montréal sont Nick Suzuki et Lane Hudson. Ah, Eric?
Ben oui, c'est 100%. C'est ce que je disais. Suzuki, un but, deux passes. Lennartsson, trois passes. Ça a été la différence. Dans des gros matchs comme ça, si le Canadien va avoir du succès dans l'avenir, c'est qui va faire la différence? C'est Suzuki et Hudson. C'est qui a fait la différence plus souvent qu'à leur tour cette saison pour mettre le Canadien dans cette position-là rendue au 31 mars? C'est Hudson et Suzuki. Mais certainement, c'est incroyable. On est donc chanceux à Montréal d'avoir un bijou à cet âge-là. Défenseur de petit gabarit qui performe dans des matchs aussi importants que ça en fin d'année. Moi, j'adore les Hudson. J'en ai parlé la semaine passée. 10,5 x 8, Tony. 10,5 x 8.
10,5 x 8. Moi, je pense que ça va être une négociation facile. Il y en a qui pensent que ça va être difficile. Le gars, c'est un phénomène de la nature. Tout le monde le sait. Ça veut dire que Kent Hughes le sait aussi. C'est aussi simple que ça.
Oui. Puis, l'autre chose, là, c'est qu'à ce petit gabarit-là, il y a beaucoup de gens qui avaient des doutes. Bon, il va frapper un mur, il va frapper un mur. Il en a frappé un petit avant le tournoi des Quatre Nations. Depuis ce temps-là, il est extraordinaire. Puis l'autre chose, moi, que je trouve, c'est qu'il est tellement intelligent sur la glace, qu'il est toujours, même en position, qu'il est pour se faire frapper, il est capable de toujours trouver une solution de sortir du contact à un contre un, puis de jamais se faire frapper solidement. Il est durable, il n'a pas été blessé cette saison. Ça, pour moi, c'est un signe très, très encourageant pour le futur aussi.
Oui, je suis d'accord avec toi. Et Arber Jacki, j'aimerais te parler de lui, là. Parce que tu as vu qu'il est allé chercher la mise en échec vendredi soir, puis c'était un 3 contre 2 qui a finalement été un 2 contre 1 parce qu'il s'est sorti de position. Et là, c'est Jarvis qui passe la rondelle à Aho qui marque le but. Un but important qui a été le clou dans le cercueil pour le Canadien vendredi soir, là. Et Martin St-Louis, là, l'a pas fait jouer par la suite, là. Il y a eu 3 minutes et quelques, puis le Canadien jouait à 7 défenseurs. Puis il l'a puni hier, là. Canadien jouait hier, il a fait jouer Pezzetta comme 12e attaquant, puis il a joué à 6 défenseurs. Donc on se demandait quand Caden Gooley va être de retour, c'est qui le défenseur qui va écoper. On avait des doutes parce que Jacki avait pas beaucoup de minutes, là, même avant ce match-là, il avait 10 minutes et demie. Qu'est-ce que tu penses du fait que Martin St-Louis a passé le message à Arber Jacki tout de suite là, vendredi soir, et qu'il a retiré de la formation hier?
Ben moi, j'étais un de ceux qui disaient que c'est lui que je sortirais de l'alignement lorsque Goulet allait revenir. On a voulu essayer d'y aller avec 11-7, qui n'a pas été concluant. Directement hier, on a décidé de rajouter Pezzetta dans l'alignement qui a joué seulement 5 minutes et quelque chose. On a retiré Jacki de l'alignement. Moi, je pense que c'était le geste à faire. Là, demain, j'ai hâte de voir. Moi, je pense qu'on devrait rester avec la même formation. Même s'il y a eu un peu de brasse camarade en fin de match pour une niaiserie, que Jacki rentre dans l'alignement, il va aller se battre contre qui? C'est quoi que ça va donner? Ça va-tu vraiment faire que les Panthers vont avoir peur, puis ils vont arriver au Centre Bell demain, puis ils seront pas capables de jouer? Absolument pas. Donc, moi, je pense qu'on va rester avec la même formation, même si j'aimerais voir quelqu'un d'autre que Pezzetta sur l'alignement des 12 attaquants. Mais en ce moment, on n'a pas d'avant extra à part Joshua Roy. Puis je pense que Joshua Roy, rendu à ce stade-ci de l'année, ça va un peu vite pour lui. Donc, j'ai hâte d'avoir l'alignement demain, mais moi, je pense que Jacki ne sera pas de la formation contre les Panthers.
Éric, on en a tellement parlé, ben on en entend parler depuis longtemps, puis on en a parlé un peu moins, puis Tony, tantôt, là, mais de mettre Jacki à l'aile à la place de Pezzetta, est-ce que toi, comme entraîneur, c'est quelque chose que tu étudierais ou ça passe même pas dans ton cerveau?
Non, ça passe pas. Pas rendu avec 9 matchs restants à la saison pour une place en série. Puis c'est pas fair pour l'équipe, c'est pas fair pour le joueur. Tu l'envoies dans la gueule du loup, il n'a jamais joué à l'avant dans la Ligue nationale. Tu te bats pour une place en série puis tu vas le mettre là. Non, moi je pense que ça va être briser encore plus sa confiance puis jouer avec sa tête. Donc moi, ce n'est même pas une solution à quoi je pense comme entraîneur.
Je pense aussi qu'il a peur qu'il va prendre des pénalités.
Ben,
je pense que toute la ville demande pour Jacki demain pour aller chercher Mikola. L'important, là, c'est les 2 points. Là, qu'on garde le focus sur les 2 points, là.
Est-ce que Mikola, il va arriver demain, il va dire « Je vais me battre contre Jacki. »
Non!
Tu sais, je veux dire, ça n'a pas rapport. On n'est plus en 74, là, où il y a 3-4 toffes par équipe, puis ça se tape sur sa marboulette. Canadien, là, demain, il faut qu'il remporte le match. On s'en fout de la façon, on s'en fout qui est dans l'alignement, mais si on rentre Jacki, pour qu'il se batte contre Mikola. Ça n'a pas rapport. Mikola, je ne jetterai même pas les gants contre lui.
On est de retour, 11h10 à BPM, lundi matin. Bonjour tout le monde, dans le forum Marinaro. On parle de Lane Hutson. Hein? Durant ce temps-là, il y a quelque chose qui s'est passé. Là. Retour de Goulet. Lane Hutson est à droite. Lane Hutson est à droite. Eric est en train de faire ça du côté droit qu'on a toujours dit, là. Tu sais, changer de côté, là, c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Puis de tous les joueurs des Canadiens pour jouer à droite, parce que les Canadiens ont beaucoup plus de gauchers, en attendant Ryan Backer puis Mayhew qui sont à Laval un jour à être avec l'équipe, ils ont juste, tu sais, ils ont David Savard, ils ont Carrier. Là, ils cherchent un troisième gars à droite avec la grosse équipe. Bon, c'est Lane Hutson qui est à droite. Ils n'ont pas demandé à Goulet d'aller à droite. Ils n'ont pas demandé à Matheson d'aller à droite. Ils n'ont pas demandé à Struble d'aller à droite. Ils ont demandé à Lane Hutson d'aller à droite. Puis comment qu'il fait? Les yeux fermés. C'est quelque chose, là, Eric. Moi, je capote, là. Ce joueur-là, il me fait... Ce joueur-là, il me fait capoter, Eric.
Ben, moi aussi, depuis la journée numéro 1 du camp d'entraînement que j'encense Lane Hutson, je l'adore, j'avais dit, premier power play, même si Madison avait connu une grosse saison. Madison a joué des matchs à droite, Goulet a joué des matchs à droite, mais Lane Hutson, là, ça a l'air facile. Il est tellement bon, il est tellement mobile, il est tellement intelligent dans la protection de rondelles, que qu'il soit à gauche ou à droite, c'est comme si rien n'était. Puis ça, c'est encore un argument de plus pour 10.5 fois 8, Tony, parce que l'agent de Lane Hutson va dire « Ouais, mais mon joueur, là, il a joué à gauche, il a joué à droite, il a joué avec n'importe qui, il a été sur le deuxième, le premier avantage numérique depuis un bout qui va très, très bien avec Lainé. Quelle passe sur le but de Lainé, beau jeu de Suzuki à Hutson. Hutson qui a fait geler tout le monde devant le filet pour l'envoyer à Patrick Lainé pour marquer le but en avantage numérique. Mais être capable de faire ça à ton année recrue,
ouais,
en défense,
ouais,
avec une équipe qui est rendue au 31 mars contre l'équipe qui a gagné la Coupe Stanley l'année passée pour se battre en série puis le faire, c'est incroyable.
Et est-ce
incroyable.
Qu'il y a des arguments de l'agent de Lane Hutson? Puis en passant, on va surveiller le dossier Jacob Fowler. Hein? L'agent de Lane Hutson, Sean Coffey, c'est le même agent, ouais, de Jacob Fowler. Puis quand Hutson a été éliminé dans les séries, il y a un an, le lendemain, il a signé son contrat d'entrée avec le Canadien de Montréal. Un contrat qu'il a brûlé un an. Puis Hutson s'est joint au Canadien de Montréal. Donc, sur ça, on entend Anthony Marcotte.
Sur Fowler, right?
Oui.
Oui, exactement. On va résumer ça rapidement là, dans le cas de Fowler. Trois options. La première, signe avec le Canadien immédiatement. Un contrat de rentrée de la Ligue nationale, ça compte pour 24-25, brûle la première année de son entente, rejoint le Canadien immédiatement pour compléter la saison. Ça, c'est l'option 1. La deuxième, rejoint le Rocket de Laval sur un contrat d'essai amateur avec à la clé un contrat d'entrée professionnel qui va débuter la saison prochaine pour 2025-2026. Ou bien, il décide d'attendre... Il retourne à Boston College la saison prochaine pour une troisième saison.
Ça, une chose, c'est sûr, là, il ne retourne pas à Boston College. Donc, on va surveiller cette situation-là d'après. Mais je parlais de l'agent de Lane Hutson. Y en veux-tu des arguments? Lane Hutson, avec ses 59 points, Eric, le plus de points dans une saison d'un défenseur recru depuis Nick Lidstrom, 60 points en 1992. Il manque juste un point pour égaler, deux points pour le battre. Ça, c'est un. Deux, plus de passes dans une saison recrue de tous les joueurs actifs dans la Ligue nationale. Matthew Barzal, c'est le meneur, 63 passes. Sidney Crosby, 63 passes dans sa saison recrue. Backstrom, 55 passes. Hutson en a 54, comme Ovechkin. Donc, il vient d'égaler quelque chose qu'Ovechkin a fait dans sa saison recrue. Il est à 9 passes d'égaler quelque chose que Crosby et Barzal ont fait, t'as un passe d'égaler Nicholas Backstrom. Il est dans l'élite, là. Il est dans l'élite. Plus de passes par un défenseur depuis la pause des Quatre Nations. Égalité, lui, Cale Makar et Luke Hughes.
Mais j'ai entendu Alex tantôt qui disait le trophée Norris. Alex, c'est qui tes trois finalistes aujourd'hui?
C'est une bonne question, Eric.
McCarr numéro 1.
McCarr est là, c'est sûr.
Mais McCarr va le gagner, les yeux
fermés. C'est McCarr qui va le gagner. Mais après ça, bon, Moi, Hudson pour en faire partie. Est-ce que Quinn Hughes, malgré les blessures, peut en faire partie? Zach Werenski est là-dedans aussi.
Zach Werenski est là-dedans, c'est sûr.
C'est sûr.
C'est, on s'entend, c'est Makar Werenski. Puis après ça, est-ce que tu y vas, tu fais un flash, puis tu dis, je fais une place à une jeune recrue qui a mangé les bandes cette année, qui a battu des records, puis qui a impressionné, ou j'y vais avec quelque chose de plus sûr, puis j'y vais avec Quinn Hughes?
Il ne sera pas nominé pour moi pour une raison. OK?
Vas-y.
Kel McCarr, il est plus 29. Werenski est plus 9. Quinn Hughes est plus 6. Edmund est plus 16. Lui est moins 9.
Ouais.
Evan Bouchard, il est plus 14. Rasmus Dahlin, il est plus 4. Josh Morrissey est plus 12. Adam Fox est plus 11. Qu'est-ce que je veux dire, là? Dans les premiers top 9 défenseurs pour les points accumulés, il y en a juste un qui est dans les moins. Je comprends qu'il ne joue pas dans une bonne équipe.
C'est même pas ça que je voudrais te répondre.
Ouais.
Je voudrais juste te dire, Eric Carlson l'a gagné avec un différentiel dans moins 20 ou moins 30, si je ne me trompe pas.
Combien de points il y avait?
100.
Oui, c'est ça.
Je comprends.
Je pense que
oui, je comprends, mais tu peux pas dire non à 100 points.
C'est 100% valable ce que tu amènes.
Il va avoir des votes.
Il va avoir des votes et tu sais, on a parlé de lui, puis on a parlé aussi de Nick Suzuki. Suzuki, là, il était mieux que Barkov hier, puis Barkov était très bon. Il était mieux que Barkov. Puis là, j'avais dit à Alex, le but qu'il a marqué, là, il a battu Barkov dans la mise en jeu, là. C'est pas facile, là. Barkov, c'est un des tops dans les mises en jeu dans l'Arsenal. Puis tu sais, il va falloir qu'on commence encore une fois. Moi, je l'ai déjà souligné à deux reprises. Je m'en souviens, là, déjà à deux reprises, j'ai souligné le travail de Marc Bureau avec le Canadien. Je sais que Marc n'est pas toujours sur la glace avec le Canadien. Puis je dis, il n'était pas sur le voyage avec le Canadien, puis il ne voyage pas avec l'équipe, Marc Bureau. Mais Marc Bureau, là, avant Marc Bureau, après Marc Bureau, dès le moment que le Canadien a engagé Marc Bureau de façon officielle, me semble, si je ne me trompe pas, ils sont dans top 8 ou 9 dans la Ligue nationale pour les mises en jeu. On parle d'une équipe qui a Newhook au centre, ils avaient Kirby Dach au centre, puis ils sont top 10 dans les mises en jeu.
Ben, Dvorak fait une bonne job.
Oui.
Suzuki fait une bonne job. Puis Jake Evans aussi est très bon, ses mises en jeu, Tony. Donc,
mais ils se sont améliorés, là.
Ils sont vraiment améliorés. C'est sûr que Marc Bureau a été très bon dans ce département-là, à trouver les ajustements à faire avec ces joueurs-là. Mais moi, là, je veux revenir à Nick Suzuki. Est-ce qu'un Nick Suzuki, Tony, pourrait être un candidat au Trophée Selkie?
Je pense que oui.
Moi aussi.
Et le même nombre de points qu'il a eu en 82 matchs l'an passé. Il lui reste 9 matchs. Mais la grosse différence, Éric, il était moins 14 il y a un an. Il est plus 10 cette saison.
Il est plus 10, puis on s'entend qu'il y a les plus grosses minutes. Un des joueurs de centre avec les minutes les plus difficiles. Il joue à tous les soirs contre le meilleur trio adverse. Il suit des pénalités. Joue en avantage numérique maintenant sur les deux unités. Moi, j'aurais certainement... certainement dans un de mes top 3, à mon avis, pour le Trophée Selke avec la saison qu'il connaît. Parce qu'il non seulement il fait des points, il est bon, il rend les joueurs meilleurs alentour de lui, mais il joue un match de 200 pieds vraiment, vraiment important pour le Canadien.
En parlant d'important, là, le trio de Dvorak hier, là, est-ce qu'ils se sont sacrifiés, eux?
Ben oui. Anderson, 5 mises en échec. Écoute, Gallagher, comment que les gars étaient contents, même s'il a marqué dans un filet désert. Ce trio-là est un trio de vétérans qui donne l'exemple depuis le début de la saison. Ont pas nécessairement les spotlights sur eux autres, mais mon Dieu, qu'ils font un travail extraordinaire. Puis c'est de l'or pour les jeunes joueurs du Canadien, voir ces vétérans-là, comment qu'ils se comportent. Parce que, tu sais, Gallagher a toujours eu de l'avantage numérique. Anderson a toujours eu de l'avantage numérique. Dvorak avait ça à Phoenix avant d'arriver avec le Canadien. C'était des gars qui faisaient des points. Là, on a trouvé un rôle de secondaire pour ce trio-là. On aime ça jouer ensemble. On donne de grosses minutes. On produit, on sacrifie, on est dur à jouer contre. Moi, je lève mon chapeau à ce trio-là depuis le début de la saison.
Oui, et je lève mon chapeau à Martin Saint-Louis aussi, qui a su... garder son équipe intacte, parce qu'encore une fois, on pensait qu'ils étaient fatigués, on pensait qu'ils étaient brûlés, on pensait qu'ils étaient moitié morts. Quelle performance hier! J'ai dit, Éric, de toutes les performances cette saison, considérant le contexte, les 4 matchs à l'étranger, considérant le fait qu'ils avaient perdu les 3 matchs, considérant le fait qu'ils avaient 15 lanciers au but vendredi soir,
ouais.
La victoire hier, pour moi, c'est la victoire la plus impressionnante de la saison.
Ben, moi, là, à part les 5 victoires sur la route, Floride, Tampa, Colorado, Vegas, Moi, je pense que cette performance-là hier, à un moment critique où ce que le Canadien avait perdu 5 matchs, puis avait de l'air amorphe, avait, comme tu dis, manqué d'énergie. Sam Montembeault, Dobesh, c'était plus difficile. On a donné 25 buts dans les 5 derniers matchs. On a resserré ça hier sur la route contre les champions de la Coupe Stanley. C'est vraiment une performance d'équipe incroyable. Puis les meilleurs joueurs ont fait de la différence.
Qu'est-ce que tu penses du retour de Gouley? Comment tu as vu son match?
Ben moi, j'ai aimé son match. C'est sûr que ça va y en prendre une coupe d'autres de plus, mais c'est tellement un gamer. Il a tellement de prestance. Il améliore la défensive du Canadien. Il est dur à jouer contre. Il est dans toutes les situations défensives. Moi, j'ai toujours adoré Goulet. Il a été mieux que son premier match. Il va continuer de s'améliorer. Puis je pense que ça, lui avec Hudson, c'est un duo qu'on pourrait voir longtemps. Si Hudson est capable de jouer à droite de cette façon-là aussi fluidement, avec Goulet, tu peux avoir ce pairing-là pendant les 10 prochaines années.
En parlant de duo, là, moi, j'ai posé une question à Alex ce matin. J'ai dit, Alex, nomme-moi une autre équipe qui a deux duos en avantage numérique meilleurs que Hudson à Liney, Suzuki à Caulfield. Le Canadien, ils ont des options en avantage numérique, là. Tu sais, le jeu hier là, de Suzuki à Hudson qui feinte le tir et qui lève son pied. Mm-hmm. Il a gelé tout le monde, là. Bobrovsky a dit, là, lui, il va tirer. C'est parce que tout le monde sait que la rondelle va aller à Liney. Donc, il va falloir être créatif de trouver des façons de vendre un tir de la pointe. Et lui, il l'a vendu quand il a soulevé son pied. Et le tir de Patrick Liney...
C'est incroyable. On peut critiquer Liney, puis moi, je suis un de ceux-là qui est à 5 contre 5, c'est plus difficile. Mais même hier, j'ai trouvé plein piqué. Mais le jeu de Suzuki, là, c'est un jeu élite aussi. Là.
Ben oui.
La passe par en arrière dans le dos, puis Hudson qui fake la shot, puis qui s'en va à Liney. Liney, il était quasiment dans le coin.
Ouais.
Je pense que le seul qui n'a pas mordu, c'est Liney, parce qu'il savait que ça s'en venait à lui, mais à part Tampa Bay avec Kucherov, Pointe, Genzel, puis Edmund, puis peut-être Colorado avec McCarr, McKinnon, Nekash, etc. Le Canadien n'a pas été gêné de son avantage numérique pantoute, là.
Mais tu sais, Slafkovski hier, là, lors de son 21e anniversaire, le jour de son anniversaire, là, il a mis ses bottes de travail aussi. Là. Ouais. Je sais qu'il a marqué un but, c'est chanceux, ça a touché, ça a dévié sur Seth Jones, là, mais Slafkovski... T'es là pour jouer hier, hein?
Ben c'est, il y a un but, une passe. Au-delà des points, quand on parle positivement de Slafkovský, à toutes les fois, même s'il fait des points, en surplus de ça, c'est comme tu dis, Tony, il est impliqué, il va au-devant des bagarres à un contre un, il remporte ces bagarres-là plus souvent qu'autrement, puis il est visible, puis il fait la différence. Donc ça, c'est un autre point positif qu'un jeune comme ça, qui a connu un début de saison difficile, ben un match important... sur le big stage est capable d'avoir une performance comme ça, c'est de bon augure pour le futur. Puis c'est à cause de ça que le Canadien a remporté le match. Les meilleurs joueurs ont été les meilleurs joueurs.
Merci, Eric.
Merci, les gars. À vendredi.
OK. Bon match mardi, bon match jeudi, puis on va se parler vendredi là, yes, avec Eric Bélanger. Là. Le voilà.